Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 10h en temps universel, 11h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. Les États-Unis face au terrorisme islamiste après l'attaque du réveillon dans les rues de la Nouvelle-Orléans. 15 personnes tuées par un homme proche de l'État islamique. Également dans ce journal, la pression grandit sur le président sud-coréen, déchu par le Parlement après avoir voulu instaurer l'état d'urgence. Il refuse de se rendre aux convocations de la police, il s'est barricadé chez lui. Et puis on parlera aussi de la fin des visas pour tous les Africains qui veulent se rendre au Ghana. La mesure est entrée hier, 1er janvier. Dans 10 minutes après ce journal, 8 milliards de voisins donnera des conseils aux jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un emploi. Les États-Unis sous le choc 24 heures après un réveillon de la terreur dans les rues de la Nouvelle-Orléans. 15 morts et une trentaine de blessés quand un homme au volant d'une voiture a foncé sur la foule avant de sortir une arme. Un homme rapidement identifié, un Américain de 42 ans, né au Texas, ancien militaire de l'armée de terre américaine. Un homme dont les intentions ne laissent pratiquement aucun doute. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé à l'arrière du véhicule. Il a aussi laissé des vidéos montrant ses liens avec la mouvance djihadiste. La police a ouvert une enquête pour terrorisme. L'homme a frappé il y a tout juste 24 heures en pleine nuit du réveillon dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Une cible, on va dire parfaite, pour faire le plus de victimes, comme l'explique le journaliste américain Radi Baboulsi, qui se trouvait sur Bourbon Street quelques instants avant l'attaque.
C'est une rue piétonne et nous avons vu dans le monde entier des attentats identiques, dans les marchés de Noël par exemple. Si vous voulez faire un grand nombre de victimes, vous savez, même à 3h15 du matin, Bourbon Street, c'est noir de monde, en particulier le soir du Nouvel An. C'est donc un endroit où il y aura plein de victimes. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Et puis, vous savez, le quartier français est connu aux États-Unis et dans le monde entier. C'est un point de repère que tout le monde connaît. Ce n'est pas comme une petite ville de l'Ohio. Faire un attentat ici, c'est comme faire un attentat sur Times Square ou sur Trafalgar Square. C'est unique et c'est ça qui en fait une cible.
Le journaliste américain Radi Baboulsi, joint au téléphone par Daniel Valo. Joe Biden, le président sortant des États-Unis, s'est adressé hier aux Américains en disant que les autorités cherchaient à savoir si l'attaque de la Nouvelle-Orléans avait un lien avec l'explosion d'une voiture devant un hôtel de Las Vegas, un hôtel appartenant à Donald Trump. Depuis hier, cet attentat suscite de nombreuses réactions dans le monde, dernière en date, celle de la Chine qui se dit choquée, qui adresse ses condoléances aux proches des victimes. Une tente qui abritait des Palestiniens déplacés par la guerre a été visée par un bombardement israélien dans la bande de Gaza près de Khan Younes. Au moins 11 personnes ont été tuées, parmi elles, selon la défense civile palestinienne, le chef de la police du Hamas, ainsi que 3 enfants et 2 femmes. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne imite le gouvernement israélien en ordonnant la suspension d'Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, accusée d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires palestiniennes. Le Hamas, adversaire politique de l'autorité palestinienne, dénonce une violation flagrante de la liberté de la presse. Un mort en Ukraine ces dernières heures, un homme tué dans une série de frappes russes dans la région de Zaporizhzhia, près de la ligne du front, dans le sud de l'Ukraine. En Corée du Sud, l'ancien président fait de la résistance, Yoon Suk-yeol, destitué par le Parlement après sa tentative d'instaurer l'état d'urgence, refuse toujours de se rendre aux convocations de la police. Alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, il s'est barricadé chez lui à Séoul, Camille Ruiz.
La tension monte devant la résidence présidentielle dans le quartier de Hanam à Séoul. Sur place, un dispositif policier très important, une quinzaine de bus, des barrages, plusieurs dizaines d'agents. Les médias locaux, dont plusieurs télévisions, font le pied de grue. Objectif, capter les images historiques de la potentielle arrestation du président. La justice a délivré un mandat d'arrêt il y a 2 jours et le bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires pourrait bien tenter de le mettre à exécution aujourd'hui, d'après l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Mais il devrait se confronter à plusieurs obstacles. D'abord, les soutiens du président qui protestent devant la résidence. Pendant la nuit du 1er au 2 janvier, Yoon Suk-yeol leur a adressé une lettre pour les remercier. Il déclare notamment « Je me battrai jusqu'au bout ». Second obstacle, la garde présidentielle, qui a déjà obstrué l'enquête à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le mandat d'arrêt expire le 6 janvier prochain. Si Yoon est arrêté, les enquêteurs ont 48 heures pour obtenir un second mandat d'arrêt ou le libérer. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
La Corée, c'est aussi la suite, les suites de l'accident d'avion qui a tué 179 des 181 passagers d'un Boeing de la compagnie Jeju Air. Son PDG n'a pas le droit de quitter le pays, selon une dernière annonce de la police sud-coréenne, qui a par ailleurs mené des perquisitions à l'aéroport où a eu lieu l'accident. Après l'Inde hier, la Chine annonce aujourd'hui avoir enregistré en 2024 l'année la plus chaude de son histoire depuis que les relevés de température sont effectués, avec une température annuelle moyenne de presque 11 degrés, en hausse de 1 degré sur un an. Le réchauffement climatique est notamment causé par les émissions de CO2 dans l'atmosphère et depuis hier, dans l'Union européenne, de nouvelles normes d'émissions de CO2 sont en vigueur, ce qui met une pression supplémentaire sur les constructeurs automobiles européens qui risquent désormais des amendes. Une seule solution pour eux, muscler les ventes de voitures électrique, Agnieszka Kumor.
Sur les 11 premiers mois de 2024, les ventes de voitures électriques ne représentaient qu'un peu plus de 13% du total des ventes en Europe. Cela inquiète les constructeurs. Pour qu'ils échappent aux amendes prévues par la nouvelle réglementation européenne, il faudra qu'une voiture sur 5 vendues soit électrique. La CEA, le lobby du secteur en Europe, demande à Bruxelles de ne pas appliquer ces lourdes pénalités. En France, la baisse du bonus écologique, acté in extremis par le gouvernement Barnier et entré en vigueur ce 1er janvier, ne va pas les aider. Au-delà de la voiture électrique, les ventes de véhicules thermiques sont aussi en berne, ce qui pose également la question de la surcapacité de production des usines. Volkswagen a prévu de supprimer 35 000 postes en Allemagne d'ici à 2030, soit 30% de ses effectifs, et les sites de Stellantis ne tournent qu'aux deux tiers de leur capacité.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Parmi les autres changements en vigueur depuis hier, 1er janvier, la fin des visas au Ghana. Plus aucun citoyen du continent africain n'a présenté de visa à l'arrivée. Le Ghana rejoint ainsi la liste des 4 autres pays africains à avoir adopté une politique similaire de libre circulation des personnes. Le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. À Accra, la correspondance de Victor Cariou.
Un geste conforme aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine afin de stimuler la croissance économique, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté. Voici comment, en janvier 2024, le président sortant Nana Akufo-Addo justifiait sa volonté d'exempter de visa l'ensemble des Africains. Un an plus tard et 5 jours seulement avant qu'il quitte ses fonctions, c'est donc chose faite, le Ghana rejoint la liste très restreinte des 5 États à garantir une entrée sans visa aux ressortissants des 54 pays du continent, les autres gouvernements africains préférant procéder par accords bilatéraux ou communautaires. Au-delà des retombées économiques positives espérées, émanant notamment d'une augmentation du tourisme et des investissements continentaux, l'exemption de visa n'est pas sans risque. Pendant l'année de mise en place, le Ghana a notamment dû se pencher sur la question de la lutte contre les crimes transfrontaliers et celle du renforcement des capacités administratives de son système d'immigration afin de garantir le bon déroulé de cette politique sans visa. Victor Cariou, Accra. RFI.
On a appris il y a quelques heures la mort de la plus ancienne championne olympique, la Hongroise Agnès Keleti, gymnaste âgée de 103 ans. Et puis des nouvelles du Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire à la voile, avec le gros des concurrents qui est en train de passer le Cap Horn, avec un danger de taille, un iceberg dans l'océan Pacifique. Les marins, les skippers parlent de la peur. On ne fait pas les malins, sachant que la coque fait à peine 3 mm d'épaisseur.